Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier direct de l'année. Un direct nocturne de 18h jusqu'à 21h15. Vous retrouverez Transhistorien, la chronique ferroviaire de Clément, Popsy-Turvy, la nouvelle émission de géopolitique culturelle, D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma, une nouvelle émission de sociologie, Socioscopie, le journal des bonnes nouvelles, puis Maëlys vous parlera de généalogie avant de retrouver le journal radiophonique amplifié comme d'habitude. Mais tout de suite, place à En ce moment.
Mais tout de suite, il est 18h01 et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec le journal.
Et pour commencer ce journal, un point politique avec les législatives. Le mouvement politique d'Emmanuel Macron, rebaptisé à l'occasion des élections législatives des 11 et 18 juin, La République en marche, a annoncé aujourd'hui la liste de ses candidats aux législatives. 428 noms ont été annoncés aujourd'hui, dont une vingtaine de membres du Parti Socialiste. Manuel Valls n'a pas été investi par La République en marche, mais le mouvement ne présentera pas de candidat face à lui dans sa circonscription de l'Essonne. Le reste des noms devrait être dévoilé mercredi prochain. En marche se laisse le temps de parfaire sa liste de candidats. La date limite des candidatures est fixée au 19 mai et selon le parti politique, ce retard est dû à l'afflux de candidatures depuis la victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai dernier. Le but affiché par En Marche serait d'arriver à accueillir dans ses rangs des personnalités politiques issues de la droite et notamment des proches de Bruno Le Maire et d'Alain Juppé. 20 à 30 députés de la droite modérée pourraient basculer d'ici la semaine prochaine. Jean-Paul Delevoye, président de la Commission nationale d'investiture, a assuré qu'au moins 50% des candidats de La République En Marche seraient issus de la société civile. La guerre des roses au Parti Socialiste. Le programme du Parti Socialiste a en effet gommé un certain nombre de propositions du candidat Benoît Hamon, notamment le très connu revenu universel. Ce programme pour les élections législatives devient entre guillemets Macron compatible, comme le soulignent les décodeurs du Monde, en reprenant certaines propositions du candidat d'En Marche, comme la loi sur la moralisation de la vie publique, son programme pour l'éducation, l'extension de l'assurance chômage pour tous et la revalorisation de la prime d'activité à 50%. Ce changement de programme intervient alors que Benoît Hamon déclarait hier qu'il comptait fonder un nouveau mouvement politique sans préciser s'il s'agissait d'un parti, après les législatives le 1er juillet. Hier encore, Martine Aubry, maire de Lille, Anne Hidalgo, maire de Paris et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ont lancé leur propre mouvement baptisé Dès Demain, mouvement qui a pour ambition de, je cite, « refonder la vie politique française ». Jean-Luc Mélenchon fait polémique. Le candidat malheureux de la France insoumise a fait savoir qu'il allait être candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille. Circonscription briguée par le député PS sortant Patrick Mennucci. Ce dernier a vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, le qualifiant de, je cite, « nomade électoral ». Il a d'ailleurs fait part de son étonnement quant au choix de la circonscription qui serait la, je cite, « la moins Front National de toute la région PACA », ce qui invaliderait la thèse d'une candidature de combat. Le candidat de la France Insoumise était arrivé en tête à Marseille avec 24,82% des voix. À l'extrême droite maintenant, Emmanuelle Ménard sera candidate dans la 6e circonscription de l'Hérault, où se situe la ville de Béziers, dirigée par son mari Robert Ménard. La directrice de publication du site Boulevard Voltaire se dit soutenue par le Front National, le Mouvement pour la France et le Centre National des Indépendants et Paysans. C'est tout pour la politique et les législatives, passons maintenant aux questions de société. Bientôt la fin de la réforme des rythmes scolaires, lancée en 2013 par Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale. Cette réforme sera allégée par décret dès cet été par le nouveau président Emmanuel Macron. Chaque commune pourra décider de l'organisation qu'elle souhaite adopter, 4 jours ou 4 jours et demi. Le fonds d'aide aux activités périscolaires sera réservé, quant à lui, aux communes les plus pauvres. On n'en a pas fini avec l'homophobie en France. Un rapport de SOS Homophobie révèle une hausse de 20% des violences et des insultes LGBT-phobes signalées. Les personnes transsexuelles sont les plus touchées par ces discriminations, avec une hausse des signalements de 76%. Les signalements de biphobie ont doublé quant à eux. C'est notamment sur Internet que les insultes flambent sous couvert d'anonymat et l'association pointe notamment le manque criant d'encadrement législatif. Le délai de prescription sur le net n'est que, en effet, que de 3 mois. L'école et le travail demeurent les principaux lieux des violences et des insultes envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Et nous passons tout de suite à l'international avec Maëlys.
Merci Mathias. Votre actualité internationale maintenant. Nous prenons d'abord la direction des États-Unis où Donald Trump est largement chahuté actuellement dans ce que certains prédisent comme un futur Watergate. Le président des États-Unis, Donald Trump, reçoit actuellement une volée de bois vert et essuie les critiques de toutes parts suite à sa décision de limoger James Comey, le directeur de la police fédérale, le fameux FBI des États-Unis, donc mercredi 10 mai, via l'envoi d'une lettre de 5 lignes lui signifiant qu'il avait failli à sa mission. La polémique enfle depuis 2 jours. En effet, si les démocrates dénoncent une décision arbitraire et antidémocratique, Trump est également critiqué par son camp républicain, certains hésitant à suivre le président dans ce qui apparaît comme une affaire motivée par des raisons questionnables, au point que certains commentateurs en fait, fassent le rapprochement avec le scandale du Watergate. En effet, parmi les dossiers en charge du FBI, l'enquête sur l'usage de sa messagerie privée par Hillary Clinton pendant ses années à la tête du département d'État de 2009 à 2013 avait débouché sur une autre enquête concernant le rôle de la Russie dans le piratage du site du Parti démocrate et la divulgation de documents internes à l'équipe Clinton peu de temps avant le scrutin, divulgation qui avait bénéficié aux candidats républicains. Mauvais calendrier pour Donald Trump, cependant, qui recevait hier même, avec le secrétaire d'État Rex Tillerson, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, une première depuis août 2013 et qui s'inscrit dans une stratégie de rapprochement revendiquée par un Trump de plus en plus contesté par l'administration américaine. Direction l'Allemagne maintenant, pour les suites d'un autre scandale, le Dieselgate de Volkswagen, cette fois qui connaît un nouveau rebondissement. Volkswagen a en effet refusé de publier l'enquête interne concernant ses moteurs diesel truqués pour convenir aux normes environnementales. La direction du constructeur allemand a annoncé hier à ses actionnaires assemblés à Hanovre que le groupe ne publiera pas plus d'informations que celles contenues dans le cadre de l'enquête du ministère de la Justice américain. En cause, la peur que cela nuise davantage à l'entreprise qui a déjà perdu 22,4 milliards de dollars dans l'affaire. La décision de la direction est extrêmement mal perçue par les actionnaires propriétaires de l'entreprise, auxquels le groupe, bien que le groupe ait annoncé qu'il leur verserait une dividende exceptionnelle de 2 euros par action, soit un montant 20 fois supérieur à l'année dernière en compensation. Proche-Orient maintenant pour finir, et plus précisément Israël, où le Premier ministre Netanyahou a décidé de stopper la chaîne de télé et la radio d'État sans préavis. Elles ont définitivement cessé d'émettre mardi soir, ne diffusant plus que de vieux clips et de la musique, entrecoupés par de petits bulletins d'information à chaque taux horaire. Officiellement stoppée pour être réformée, la radio-télévision publique israélienne est néanmoins considérée comme trop critique par Benjamin Netanyahou et ses ministres, qui la trouvent, je cite, « persifleuse, incisive et indocile », disent les syndicats de journalistes. À la place de l'institution, une nouvelle structure est censée prendre l'antenne à partir de lundi sans toutefois diffuser d'informations qui, elles, seront traitées par un organisme au contour flou où le gouvernement sera représenté. Cette nouvelle configuration inquiète également le président de l'État hébreu, Reuven Rivlin, et elle doit encore être approuvée par le Parlement israélien. C'est fini pour votre actualité internationale.
Merci Maëlys pour ce retour sur l'actualité internationale aux quatre coins du monde. Restons dans l'actualité, plus politique et corrosive cette fois, avec Pierre et son billet d'humeur politique. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias.